Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir.
Bonsoir.
Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, nous avons la joie, encore une fois, de recevoir dans ce studio, ce soir, Monsieur Jacques Harlé. Monsieur Jacques Harlé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu.
Cher ami.
Nous allons parler ce soir de la vie à Toulouse sous Louis XIV, hein, un sujet très intéressant, et je vous dirai pourquoi je tenais beaucoup à cette émission. Mais auparavant, je voudrais faire une annonce. Le mercredi 14 décembre, 18h, à la librairie Ombre Blanche, je vous invite à aller voir l'animation qui sera celle de ce jour et qui sera consacrée à un poète auquel nous avons, nous, consacré une émission ici. Et il s'agit de l'Iranien Abbas Kiarostami, qui avait publié des milliers d'arbres solitaires dans cette collection Poépsie de notre éditeur toulousain, RS, puis c'est un éditeur de Toulouse. Hein.
C'est vrai.
Et nous avons eu le plaisir d'avoir une émission sur l'œuvre de poésie, hein, l'œuvre poétique, parce que Abbas Kiarostami était également un poète, avec donc la traductrice de Abbas Kiarostami. Alors, on rappelle brièvement, il dit une très belle chose qui va certainement beaucoup vous plaire, Monsieur Harlé. Quand je n'ai rien dans la poche, j'ai la poésie. Quand je n'ai rien dans le frigo, j'ai la poésie. Quand je n'ai rien dans le cœur, je n'ai rien.
Ah.
Dans une chambre d'hôtel exigu, j'ai composé un poème sur la steppe. Ça me fait penser à une réflexion de Paul Éluard qui disait « Je peux vivre entre quatre murs sans rien oublier du dehors ». C'est exactement ce qu'il dit Abbas Kiarostami. Et il dit également ceci, face au joug du temps, le havre du poème, face à la tyrannie de l'amour, le havre du poème, face à la criante injustice, le havre du poème. Voilà. Alors nous ne pouvons qu'adhérer, bien sûr, à ce qu'il dit.
Ces aphorismes, excellent.
Oui. Voilà. On rappelle qu'Abbas Kiarostami est né à Téhéran, il nous a quittés il y a peu de temps, un peu brutalement, personne ne s'y attendait vraiment. Il est né à Téhéran en 1940, hein, et il était surtout connu en Europe comme réalisateur, scénariste, producteur de cinéma, bien sûr. Et il a signé plus de 40 films, parmi lesquels on peut citer Le goût de la cerise, qui a eu la Palme d'or du Festival de Cannes, en 1997. Hein. Le vent nous emportera, 1999, qui a eu le prix de la Mostra de Venise. Et c'est aussi, alors, c'était un photographe reconnu dont les œuvres sont exposées actuellement dans le monde entier. Mais à travers ses modes d'expression, c'est le peintre et le poète qu'il a commencé par être et qu'il continue d'être. Donc, Abbas Kiarostami, qui s'exprime donc dans cette très belle publication publiée dans les éditions RS par Daniel Fougeras dans sa collection Poépsie, qui s'appelle « Des milliers d'arbres solitaires ». Alors, il y aura à Ombre Blanche un professeur de l'université de Toulouse, Jean Jaurès, qui parlera de la littérature iranienne. Et puis, il y aura des lectures de ces poèmes. Ce sont des poèmes très courts, hein, puisque l'édition Poépsie privilégie les poèmes de cours, les poèmes brefs, dans les deux langues. Dans les deux langues, hein, c'est toujours bilingue. Hein, c'est le grand intérêt de cette édition. Je rappelle d'ailleurs que dans cette édition, il y a les œuvres de Lorca également qui ont été publiées. Voilà. Et il y aura notre ami Manijé Nouri, que vous connaissez bien.
Bien sûr.
Manijé Nouri, qui lira les poèmes dans la langue iranienne, c'est-à-dire dans le perse moderne. Voilà. Alors, nous allons parler, monsieur le professeur Harlé, d'un sujet qui me tenait à cœur. Ça fait quelque temps que je vous ai demandé de bien vouloir réaliser avec moi une émission donc sous ce thème de la vie à Toulouse sous Louis XIV. Alors, pourquoi? Mais je crois d'ailleurs, on trouve dans votre introduction du livre les raisons peut-être de mon intérêt particulier pour cette période, c'est que très souvent, quand j'ai reçu des auteurs ici qui me parlaient de la littérature occitane, de la culture occitane, ils considéraient toute une période comme une période véritablement d'endormissement, pour ne pas dire de déclin de cette période-là. Or, j'étais très heureux. Donc c'est une période, ça commence donc sous Louis XIV et ça continue en définitive avant le réveil qui serait au XIXe siècle. Bon, or, Toulouse ne s'est pas endormie, et en tout cas, Toulouse sous Louis XIV n'était pas cette ville, comment dirais-je, tombée en décadence que certains ont voulu voir. Et je trouve ça quand même assez curieux qu'ait pu naître ce sentiment. Et je suis très heureux de voir que dans votre livre qui est publié aux éditions Loubatière, dans la collection Histoire, La vie à Toulouse sous Louis XIV, eh bien, vous disiez, attention, ça a été au contraire une période importante et une période florissante. Voilà. Alors, c'est de ça dont nous allons parler. Nous allons parler donc de cette vie à Toulouse sous Louis XIV. Alors, il y a... Votre livre commence par un événement qui est important pour les Toulousains. C'est Louis XIII s'était arrêté à Toulouse également. Et avant son entrée à Toulouse, les huit capitouls lui avaient demandé de jurer fidélité au respect de la charte de Toulouse, en fait, c'est-à-dire les respects des libertés particulière à la ville. Et quand Louis XIV arrive à Toulouse, parce que il va se marier, il y avait à ce moment-là un événement qui était très important, c'était bien entendu toutes les guerres qui occupaient la France et l'Espagne, qui était une deuxième grande puissance de l'Europe.
Bien sûr.
Hein? Et Louis XIV va faire la paix avec l'Espagne, et pour faire la paix avec un pays à cette époque-là, l'arme la plus...
Le mariage.
C'était le mariage. C'était le mariage. Donc il va se marier avec Marie-Thérèse d'Espagne, qu'il va épouser dans cette fameuse île du Faisan.
C'est là qu'il se passaient les négociations.
Voilà, la négociation, qui est cette île sur la Bidassoa. Hein.
Exactement. Le mariage aura lieu à Saint-Jean-de-Luz, dans cette fameuse église.
Dans cette fameuse église que je vous invite d'ailleurs à voir, et qui est toujours dans le même état, en définitive, oui, qu'elle était. Alors, il s'arrête donc à Toulouse. Et les capitouls se rappellent à lui, hein, quand
bien
même.
Sûr.
Hein, les huit capitouls se rappellent à lui, et vous reproduisez dans la couverture de votre livre, vous reproduisez cette miniature qui est d'ailleurs terriblement intéressante, hein, cette
oui,
miniature,
oui,
puisqu'elle donne le nom des huit capitouls, etc., et qu'on voit bien de quoi il s'agit. Il va jurer devant les huit sur les évangiles en présence de la reine mère qui a assumé la régence avant lui, Anne d'Autriche, et puis de son frère, hein, je crois.
Oui.
Ouais, voilà. Il va donc jurer fidélité à cette charte de Toulouse, qui est commémorée maintenant d'ailleurs
oui,
tous les ans. Hein.
Il y a une plaque de marbre,
voilà,
sur laquelle est indiqué.
Oui. C'est 10 places de mémoire, je crois que c'est 10 places du Pont Neuf.
Voilà,
10 places
la place du
voilà,
Pont Neuf.
Oui.
Il y a écrit « Année de la Rédemption, 1659, en cette ville, le roi arriva devant les murailles de cette cité, et d'abord, avant de franchir le seuil de la porte, il jure, comme ont fait ses aïeux, de respecter les privilèges éternels de la ville ». Au milieu des applaudissements de toute la cité. Et ainsi les huit capitouls le reçoivent, joyeux, que les lauriers de la guerre soient enlevés de son front et qu'il soit remplacé par les oliviers, désirés d'une longue paix. Voilà, gravé dans le marbre.
Voilà, c'est Mazarin hein, qui voulait faire la paix.
Un coup de maître de Mazarin, faire oui, la paix avec le plus puissant pays d'Europe. Et Louis XIV se trouvait peut-être assez bien à Toulouse, puisqu'il y resta, 2 mois et demi.
Oui. Alors, est-ce que c'était prévu, là, qu'il reste aussi longtemps?
Je ne sais pas. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi. Ah. D'ailleurs, il en a profité pour aller visiter un petit peu le sud-est.
Oui.
De son pays.
Oui. Les états du Languedoc, c'était important aussi pour lui.
Bien sûr. Hein? Alors, il est arrivé juste au moment où les états du Languedoc se réunissaient. Les états du Languedoc, donc, c'était un restant de la personnalité de l'Occitanie, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Et donc, ces états du Languedoc, qui étaient présidés en général par l'archevêque, soit de Narbonne, soit de Toulouse, décidaient des impôts, et en particulier de la subvention très vaste donnée à... Au roi.
Voilà. Alors, il arrive à ce moment-là. Est-ce que c'est peut-être pas une coïncidence, non?
C'est peut-être pas une coïncidence, d'autant plus que il avait ses observateurs. Il a trouvé que la subvention décidée était trop faible. Il n'était pas content. Il a réussi à obtenir qu'on augmente.
Donc, il crée la surprise quand même quand on regarde. Alors, il jure fidélité, mais en même temps. C'est Louis XIV, hein, c'est-à-dire que...
C'est déjà Louis XIV, bien qu'il n'ait que 21 ans et que Mazarin soit, en principe, son premier ministre.
Mais il affirme vraiment une volonté très forte, et on sait que là, déjà, il y a l'absolutisme.
Absolument, d'autre part, il a décidé, au cours de son séjour à Toulouse, que c'est lui qui allait élire, choisir les capitouls, alors que les capitouls sont le fait d'une élection... local, n'est-ce pas? Donc c'était une rupture des engagements.
Oui.
Ça l'est égal.
Oui. Donc il affirme, c'est quand même, il augmente considérablement quand même l'impôt devant les États du Languedoc, et il dit, ben voici les 8 capitouls seront, il les désigne lui, c'est-à-dire qu'il il a juré fidélité.
Quelques jours avant.
Voilà, quelques jours avant. Mais il s'affirme comme un roi absolu et d'une grande fermeté. Voilà. Quoi.
L'État, c'est moi, ça sera bientôt.
Cette autorité qui va, en définitive, pendant les 63 ans...
Dominer
son règne. Sur 63 ans. Hein. Voilà. Alors... Il reste à Toulouse, vous avez dit, 2 mois et demi, donc il a le temps quand même de connaître un peu. C'était la première fois qu'il venait à Toulouse. Hein?
Je crois.
Oui, apparemment. Et il a le temps de connaître un petit peu ce qui se passe à Toulouse, dans évidemment l'ensemble du Languedoc. Hein?
Aussi.
Aussi, puisqu'il ne va pas rester que dans Toulouse. Et apparemment, il semble qu'il se soit plu à Toulouse.
Mais oui, bien que les Toulousains se soient plaints ensuite de sa visite, parce que ça a été tout un chambardement.
Il y a une garnison.
Il y avait toute la garnison qui suivait, et les Toulousains n'avaient pas de caserne à ce moment-là. On n'était pas au XIXe siècle.
Oui. On a même été obligé de fusiller...
Voilà, et alors il paraît que c'est... En particulier les mousquetaires se sont mal comportés, ils ont même tué un bourreau. On en a fusillé en compensation.
Oui, voilà. Alors, il a même gracié, c'est assez intéressant ce que vous dites, il a gracié, il se baladait place du Salin, qui était la place où...
On exécutait justement les gens. Oui.
Et là, il y avait un parricide qui le gracie, ainsi qu'un voleur de tabernacle. Alors, Toulouse, qu'est-ce qu'est Toulouse en 1659?
Alors, Toulouse est une ville très importante.
Voilà.
Elle a toujours été très importante d'ailleurs, contrairement à ce que pourraient penser certains historiens. Et donc, c'était presque la deuxième ville de France. Il y avait environ 30 à 40 000 habitants, ce qui est très important pour l'époque, n'est-ce pas? C'est une ville très grande, dont le périmètre, enfin dont la surface égale celle de Paris actuelle. Mais qui avait deux parties. Une partie centrale, la cité, qui était à droite de la Garonne, et puis une partie extérieure qui était essentiellement agricole et qu'on appelait le gardiage. S'il y avait 8 capitouls, ils se partageaient En 8, la cité, mais ils se partageaient aussi, de la même façon, chacun son gardiage. Le gardiage, c'était une zone quasiment agricole, où il y avait de la vigne, bien entendu, du blé, bien entendu. Il y avait aussi même un élément important du côté de l'élevage. Et donc on pouvait dire que c'est cette partie de Toulouse qui nourrissait les habitants du centre de la cité. Voilà. Toulouse n'avait besoin de personne. Il vivait... Il s'y tue. Et donc c'était quand même très intéressant. Et les visiteurs disaient ça, c'est bien confortable, c'est bien commode.
Oui. Ce qu'on a complètement perdu.
Il y avait encore dans le nord, il y en a encore un petit peu, mais bien peu, une activité agricole. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que Toulouse était une ville avec, c'était pas un conseil municipal, c'était le capitoulat. Mais c'était une ville où le pouvoir du comte de Toulouse était assisté et même divisé en partie grâce à ses conseillers qui étaient des capitouls, qui étaient 8 à ce moment-là. Et c'est une création des comtes de Toulouse. Ils ont voulu également, c'est une action démocratique, si j'ose dire. Et grâce à ça, il est vrai qu'ils s'absentaient assez souvent. Grâce à ça, Toulouse fonctionnait grâce à ses capitouls, qui étaient d'ailleurs élus pour un an. Mais ils pouvaient être réélus aussi, n'est-ce pas? Donc ils avaient des pouvoirs de justice et de police, hein, bien entendu, des pouvoirs d'hygiène et de santé. Ils avaient des pouvoirs aussi dans le domaine commercial et dans le domaine de l'activité toulousaine en général. Donc c'était vraiment un pouvoir important qu'ils partageaient. Je dis, à Toulouse, il y avait 3 pouvoirs. Il y avait le pouvoir des capitouls, qui était celui des comtes de Toulouse. Il y avait le pouvoir du Parlement, le pouvoir de l'Église, enfin le pouvoir royal et le pouvoir de l'Église, il y en avait 4 en réalité. La création des capitouls est une création qui remonte au XIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que au XIIe siècle, c'est Raymond V qui l'officialisa en 1189.
Oui, donc c'est un noble éclairé, on peut dire.
Hein. Voilà. Voilà.
C'est vraiment... il est très en avance sur
ça.
Très en avance. Hein.
Ouais. Et donc, ensuite, le pouvoir... il faudrait que je parle un petit peu de la des constructions que l'on fait pour faire un capitoul, un hôtel de ville correct. Tandis que le pouvoir du Parlement est beaucoup plus récent, puisque c'est un Parlement qui a été... est créé par Charles VII en 1443. Oui.
Alors, le Parlement, c'est le tribunal. Hein.
Le Parlement, c'est un des pouvoirs à la fois de justice. C'est lui quand même qui a la plus grande part dans les décisions de justice. Mais c'est également une action politique qu'on oublie.
Oui.
C'est que les édits du roi doivent être acceptés et contresignés par le Parlement. Là aussi, c'est un élément quand même de contre-pouvoir. Le
contre-pouvoir
qui montre bien que on n'était pas quand même dans un pouvoir absolu.
Oui, oui.
C'est contre ça un petit peu que s'est élevé Louis XIV, parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas les moyens qu'il lui fallait. Oui, je voudrais ajouter en ce qui concerne les capitouls que quand ils ont été créés, il a fallu qu'ils s'installent, qu'ils se trouvent des bâtiments, puisqu'ils avaient tous ces pouvoirs, et ils se sont installés dans la partie nord de la cité. Si vous voulez, en haut de la place du Capitole. Ils ont acheté des vieilles maisons qu'ils ont aménagées, qu'ils ont transformées. Il y avait des prisons, il y avait un arsenal, il y avait une tour importante qui était la tour...
Oui, vous en parlez...
pardon, excusez-moi, des archives. Oui, c'est là qu'on mettait les archives, et c'est là qu'on mettait également les réserves financières. Et puis à côté, il y avait un bâtiment qui était consacré au poids et mesure. C'était le poids de l'huile.
Oui, d'où la rue d'ailleurs.
De la rue du poids de l'huile. Et puis il y avait quand même de quoi manger. Il y avait un petit restaurant qui en même temps faisait salle de spectacle, qui s'appelait le logis de l'écu, qui était à côté du poids de l'huile, dans la rue actuelle du poids de l'huile. Donc tout cela, évidemment, nécessitait aménagement, nécessitait surveillance. Et il y avait une partie antérieure qui donnait sur la place du Capitole actuel, mais qui n'était pas la place du Capitole, c'était rempli de maisons. Et donc ce bâtiment était là pour la réception, éventuellement, mais qui ne représentait que la moitié de la façade du Capitole actuel. Et tout cela était finalement entouré de murs. C'était comme un petit Kremlin, disait-on. Donc c'était là qu'ils étaient. Avec le guet aussi, puisqu'ils avaient quand même une force de police, permettait d'assurer la sécurité des Toulousains.
Alors, l'actuel donjon, là où sont les syndicats.
Oui, le syndicat. C'était celui-là, c'était la tour.
Voilà, c'était donc
la tour des archives.
La tour des archives, voilà. Qui ensuite a été transformée.
Alors, le rez-de-chaussée était une salle de réunion pour les capitouls, et en haut, il y avait ses réserves et les archives. Et le personnel de cet ensemble représentait à peu près 200 personnes.
Il faut dire que ça n'avait pas du tout l'aspect actuel.
Hein, non, pas du tout.
C'est Viollet-le-Duc et ensuite au XIXe siècle.
Donc, alors on a supprimé tout ce qui était derrière au XIXe siècle, au XXe siècle, on en a fait le square de Gaulle. Il n'y a plus maintenant que la partie antérieure. Bon, il s'occupait aussi de l'entretien des chaussées, de l'éclairage. Tous les soirs, il y avait des dizainiers qui venaient éclairer les rues de Toulouse.
Alors, le Parlement, fait office de... Donc, c'est le tribunal, hein, il est...
Exactement.
Mais, vous dites, également, il a un rôle politique.
Un rôle politique, comme le Parlement de Paris.
Et ce rôle, est-ce que... Il a été mis, comment dirais-je, un petit peu en exergue pendant cette période. Est-ce qu'il s'est signalé particulièrement?
Oui, premièrement, il contrôlait, il avait aussi le contrôle des capitouls.
Oui.
Donc il était capable d'écarter, de supprimer une élection. Oui, oui.
Donc, membre du Parlement, les élections. C'était
et quelquefois, c'était les mêmes, mais enfin, bon, il y en avait quelques-uns qui étaient les deux côtés. Deuxièmement, le droit d'enregistrement, comme je vous l'ai dit, des édits royaux, qui était quand même une chose très importante, et qui, d'ailleurs, ne faisait pas plaisir aux rois de type monarchie absolue comme Louis XIV. Alors, le Parlement était installé au sud de la cité, contrairement au Capitole qui était au nord. Il y a eu des batailles entre eux, puisque le Capitole était protestant, à l'époque des guerres de religion, un petit peu. Et avant au XVIe siècle, et les Capitouls étaient dans l'ensemble protestants, et au contraire, le Parlement est dans l'ensemble catholique. Il y a eu, en 1462, je crois, une réaction violente de la part des capitouls, la majorité protestante, qui ont voulu prendre le pouvoir à Toulouse, carrément. Il a fallu que le Parlement intervienne, manu militari, fasse venir la troupe de l'extérieur pour en venir à bout, et Toulouse est restée catholique, alors que Montauban, et restée protestante, la place forte du protestantisme.
Les guerres de religion ont été importantes à Toulouse. Hein.
Ah oui, Toulouse était le centre des guerres de religion, oui. Ça a été vraiment, pour le pays, un désastre.
Oui.
Parce que des destructions multiples, des batailles dans tous les sens, on incendiait les couvents aussi bien, enfin bon, c'était vraiment une période très triste et très sombre. Et donc c'est aussi une explication d'un retour à un catholicisme activiste au XVIIe siècle, nécessité de restaurer les églises, et de restaurer non seulement les églises, mais aussi la religion, parce que du même coup, les curés délaissaient leurs églises, le catéchisme était plus enseigné, enfin, etc., il fallait que faire quelque chose. Et donc, on a, au contraire, eu un siècle catholique, oui, le XVIIe.
Oui, c'est la réaction.
Et qui expliquera aussi un petit peu ce dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire les arts à Toulouse. Donc toute cette restauration des églises a fait appel à des artistes de premier plan. Alors le troisième pouvoir, évidemment, c'est celui du roi, quand même, qui est chez lui depuis que le comté de Toulouse a été absorbé par le pouvoir central. Donc le roi est chez lui et il a une justice à lui aussi, ça peut être une troisième justice. Il y a la justice municipale, la justice principale du Parlement et la justice royale, qui est dirigée par un sénéchal. Heureusement, ils interviennent peu. Voilà. Et il y a aussi une trésorerie, la trésorerie qui était installée place des Salins, qui est actuellement un temple protestant. Donc il y a les restes, une partie des restes de l'époque. Et cette trésorerie était un bâtiment important parce qu'on y mettait les réserves en attendant que les impôts soient utilisés, transférés. Et on a fait une installation aussi pour les rois, puisque à plusieurs reprises, des rois qui sont passés à Toulouse se sont installés dans leurs appartements propres, la trésorerie. Et d'autre part, il y avait deux personnages importants qui étaient le gouverneur et l'intendant, qui dépendaient directement de la couronne. Les intendants avaient un rôle d'inspection, c'était des missions qui rendaient des comptes au roi pour indiquer comment ça se passait. Et puis il y avait le gouverneur qui lui était le lieutenant du roi, qui donc avait un rôle militaire essentiellement.
Donc quand même, on voit qu'il y a une administration assez élaborée, même assez complexe.
Hein. Assez complexe.
Assez complexe, oui, oui, oui. Parce qu'on parle actuellement là, des millefeuilles, mais on voit que déjà à l'époque, il y avait des concurrences un petit peu de pouvoir aussi.
Et on est obligé de parler du quatrième pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'Église. De l'Église, voilà. Et au XVIIe particulièrement, puisqu'elle a eu une importance considérable, beaucoup d'argent
aussi,
ça fait un pouvoir financier aussi.
Oui.
N'est-ce pas ? Et donc, une justice, l'Église aussi.
Oui.
Donc, les prêtres étaient jugés par la justice ecclésiale. Et puis, donc, un rôle d'incitation artistique, c'est justement là, c'est pour ça que j'en parlais, de la brillante période artistique du XVIIe siècle et qu'on oublie un petit peu. Et c'est très intéressant de noter que au lendemain de la guerre de 40-45, un conservateur du musée des Augustins, qui voulait donner un petit peu d'activité et un petit peu de lustre à ce musée, et qui étudia de plus près l'activité picturale du XVIIe siècle, s'aperçut de la qualité de ces peintres, de ces artistes, de ces peintres en particulier, et aussi des sculpteurs, et organisa une exposition qu'il appelait l'âge d'or de la peinture. Cette exposition fut si intéressante qu'elle intéressa les Parisiens, qu'on la transféra à Paris, et que le conservateur du musée du Louvre reconnut sa qualité et fit une préface tout à fait remarquable en disant que Paris tenait trop de place,
déjà
sur Louis XIV, Et on oubliait un petit peu ce qui se passait ailleurs en province, et en particulier à Toulouse, où l'activité artistique était remarquable, et où on comptait une dizaine d'artistes, dont la plupart n'étaient pas toulousains d'ailleurs, mais qui étaient attirés par Toulouse parce qu'il y avait du travail. Parce qu'il fallait refaire les églises, parce qu'il fallait faire des retables, parce qu'il fallait faire des vitraux, parce qu'il fallait faire des... Le retable surtout a eu une importance considérable. C'était devenu une habitude, n'est-ce pas, derrière l'hôtel, il fallait mettre là une espèce de décoration plus ou moins importante, qui était un véritable montage, une menuiserie, dans laquelle on installait des sculptures et des tableaux. Et c'était toujours le même principe, c'était le principe d'instruction des populations qui, évidemment, savaient peu lire et peu écrire.
Et qu'ils ont laissé des chefs-d'œuvre extraordinaires quand même. Hein.
Des grands chefs-d'œuvre.
Parce qu'on on parle de l'art baroque occitan, qui est une réalité, dont la capitale est bien sûr Toulouse. Oui, donc cette période
les peintres de
accueille
les artistes
à Toulouse. C'est un centre artistique
très important en France. Alors vous avez un des principaux dont on a reparlé récemment, c'est Nicolas Tournier, qui est effectivement fait des chefs-d'œuvre, dont il n'y a pas beaucoup de tableaux, mais il y en avait quand même quelques-uns, 5 ou 6, au musée des Augustins. Et on le retrouve évidemment dispersé un peu en Europe et même en Amérique. Il y avait en tout Ambroise Fredo, qui était devenu un moine chez les Augustins et qui a fait de nombreuses décorations dans le couvent et l'église des Augustins et ailleurs. Jean Chalette, qui était un excellent portraitiste. Antoine Durand, ces deux-là ont été les peintres de la ville, parce que la ville avait son peintre, et en particulier qui était assigné à peindre chacun des capitouls.
Portrait des
capitouls. Petit format et grand format.
Oui. Miniatures,
et les miniatures, vous voyez, c'est celle de la,
c'est celle de
la couverture. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on ne mettait pas n'importe quelle, on faisait des têtes ressemblantes. Et puis il y a eu les Rivals, Jean-Pierre et Antoine, Hilaire Pader, qui a fait des choses aussi importantes, un dessinateur de grand niveau qui était Lafage. Des architectes, Pierre Lévesville, Souffron, qui ont également joué un rôle important, évidemment, dans la réfection des églises, des voûtes, des cathédrales. Donc une grande richesse dans ce domaine-là, les sculpteurs aussi de grande qualité, qui fait que, oui, c'est vrai, c'est vraiment l'âge d'or de la peinture.
Donc une prospérité artistique indéniable pendant qui n'a pas été bien reconnue sur le moment, et même après, parce que
justement...
Il faut du temps, hein.
Louis XIV avait créé son académie à Paris, et après, Rome, ce fut Paris.
Oui,
voilà. Et les peintres étaient obligés d'aller faire un petit séjour.
Il fallait se faire reconnaître à Paris.
Comme avant, ils allaient à Rome. Les premiers, d'ailleurs, ceux de la fin du 15e et début 16e, ont été très influencés par Caravage et le caravagisme.
Oui.
Il y a eu un rôle très important qui a fait un virage
de la peinture. Il y a eu une exposition remarquable, d'ailleurs, à Toulouse, aux Augustins, sur le Caravage, le caravagisme. Et qui est d'ailleurs, on peut dire que ce musée est un musée quand même très très important à ce niveau-là.
Mais oui, hein, mais oui, oui.
Il faut le reconnaître. Alors, curieusement, tout ceci vient, et vous venez de l'expliquer, du fait que l'Église catholique voulait restaurer sa primauté.
Hein. Restaurer d'abord ce qui avait été détruit. Et ensuite, effectivement...
C'est Louis XIV qui révoque l'édit de Nantes, quand même. Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes.
Mais ça, c'était à la fin de son règne.
Oui.
Et bon, les protestants, comme on le sait, grâce à l'édit de Nantes, avaient leur secteur géographique réservé.
Oui.
Et on devait accepter le principe.
Voilà. Oui.
On avait même créé une justice spéciale qui était à la fois avec moitié de catholiques, moitié de protestants, qui devait juger les cas difficiles dans ce domaine. Elle était installée dans la région à Castres.
Oui.
Et c'est là, on parlait de Fermat tout à l'heure,
oui.
C'est à Castres que Fermat était juge de cet appareil de justice mixte, qui fonctionnait bien d'ailleurs, dans l'ensemble. Mais il y avait des frottements, il y avait des difficultés, et Louis XIV n'acceptait pas ça, cet état dans l'état, le protestantisme.
Oui,
voilà. Donc,
oui parce que bon, ça,
appuyé par Madame de Maintenon, qui était devenue un peu bigote, et qui donc le poussait dans cette voie.
Oui. Et puis des places fortes, ça veut dire des villes qui échappent quand même.
Oui, en partie.
Oui, je pense à La Rochelle, par exemple.
Bien sûr.
Ça n'allait absolument
et
pas.
Et Montauban.
Oui, Montauban, ça ne pouvait pas aller avec...
D'ailleurs, une chose que je ne dis pas dans mon livre, c'est que la Navarre a disparu au début du XVIIe siècle. Henri IV était roi de Navarre, avant d'être roi de France. Lorsqu'il est devenu roi de France, après avoir dit sa messe à Paris, il est resté roi de France et de Navarre. Tout allait bien. Or, la Navarre était un refuge des protestants autour d'Orthès. C'était presque entièrement protestant. Il faisait un peu ce qu'il voulait. Il mettait la main sur les églises, il les transformait en temples, etc. Donc, et ça reste encore un lieu de protestantisme. Et ça ne se plaisait pas du tout, ça, lorsque Henri IV est mort, ça ne plaisait pas du tout à Richelieu, qui dominait Léon XIII, et finalement ils sont allés faire un tour là-bas. Quelque temps après, c'était vers 1623 par là. Henri IV était mort depuis quelques années, assassiné, et ils se sont aperçus de cela, de cet enclos protestant excessif, où il n'y avait plus d'église pratiquement, etc. Ils ont dit aux protestants qui étaient là, mais rendez les églises aux catholiques, et de toute façon, le royaume de Navarre n'existe plus. Donc c'est en 1623 que le royaume de Navarre a disparu.
Oui.
En France, le royaume de Navarre en France,
oui.
La partie française.
Oui. Donc dans cette...
Donc aussi bien Richelieu, Léon XIII, étaient en difficulté permanente avec les protestants quand même, on le sait bien. Et Louis XIV a décidé d'en finir, voilà.
Oui.
Ce qui n'était peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, ça dépend. On peut juger ça d'une façon ou d'une autre. Personnellement, je trouve que là, on aurait pu s'en passer.
Oui, mais il y avait cette volonté d'unification de la France, de faire d'un royaume qu'on a gardé ensuite, hein, puisque cette centralisation, tout convergent vers Paris, on y est encore.
C'est sûr.
Alors que on voit en lisant votre livre, par exemple, que les pouvoirs locaux avaient une certaine ambition.
Oui.
Et cette ambition a été freinée quand même. Hein,
une opposition de bonne qualité.
Oui,
Alors,
cette période est une période... prospère dans tous les sens du terme. Prospère également sur le plan de l'économie.
Oui, parce que s'il n'y avait pas de grosses industries à Toulouse, il y en avait une qui était l'industrie des moulins, n'est-ce pas ? Il y avait des moulins tout à fait remarquables qui envoyaient excellente farine de blé dur dans toute l'Europe, le Balzac en particulier. Et d'ailleurs, on ne faisait pas que du moulinage, le Balzac, on faisait même, il y avait une activité industrielle métallurgique, en partie. Mais c'était surtout un centre commercial. Toulouse n'était pas du tout tournée vers Paris, tournait le dos à Paris même, et toute son activité était tournée vers l'Espagne, de tout temps d'ailleurs. n'est-ce pas ? Et donc, tout ce qui venait d'Espagne, et qui venait en plus de l'Ariège, où il y avait une activité métallurgique importante, est passé par Toulouse, et le plus souvent par la voie fluviale. C'est ainsi que tout le bois de qualité des forêts de l'Ariège était transféré à Bordeaux, à Toulouse, par tout simplement par roulage dans le fleuve, comme on faisait au Canada ensuite. Et les marbres des Pyrénées étaient transportés sur radeau aussi, sur le fleuve Garonne. C'est ça qui rendait évidemment riche le port à Saint-Michel, parce que là, il y avait un barrage qui faisait que tout débarquait à ce moment-là, et il fallait ensuite passer dans la ville pour aller plus loin. Et il y avait une activité inverse aussi, c'est-à-dire que pour aller en Espagne, il fallait s'arrêter, venant de Lyon ou de Bordeaux, on s'arrêtait par Toulouse, qui était donc un centre de gros, et un centre, il y avait tous les tissus qu'on voulait à Toulouse. On a fabriqué pas beaucoup à Toulouse, il y avait quelques usines de tissage, mais c'était pas de grande qualité.
Tout passait par là.
Et on a étudié cette question.
C'est une confluence.
Assez tardivement, il y a eu des thèses très intéressantes. Comment faisait-on ce passage des Pyrénées? C'était pas des camions, c'était des mulets. Des milliers de mulets, n'est-ce pas, qui circulaient dans les deux sens. L'animal extraordinaire qui a disparu de la circulation. Mais qui, en montagne, portait des poids.
Sur les chemins montagneux, il n'y a que le mulet, quoi, qui peut...
Et cette étude du mulet à faire.
Oui, oui.
Parce qu'il a disparu, le mulet.
Oui. Enfin, dans mon enfance, il y avait encore, dans mon village, à Moisésil, il y avait des muletiers.
Il y avait encore des muletiers. Oui, il y avait des muletiers.
Je me rappelle quand j'ai fait. 40 bêtes, vous savez, et qui transportaient le bois.
Qui transportaient le
bois. Oui. Qui transportaient. Donc, c'est ce qui se faisait à grande échelle.
À une grande échelle.
À cette époque-là.
C'est vrai que moi-même, j'étais au chantier de jeunesse, et un de mes meilleurs amis était un muletier.
Oui.
Donc ça existait encore, mais maintenant c'est fini.
Maintenant c'est fini, oui. Même en Espagne, dans le sud de l'Espagne, où il y avait aussi
Et c'est difficile de savoir où est-ce qu'on les élevait en priorité, si c'était en France ou en Espagne.
Oui.
C'est une étude à faire.
Alors, donc, prospère sur le plan du pouvoir. Il y a une activité quand même... importante, mais cette activité, c'est une activité cérébrale qui va être aussi une activité donc des arts et qui va être cette activité que l'on retrouve maintenant dans les académies de savantes. Alors, Toulouse a son académie.
Toulouse a son académie, c'est... une académie qui est considérée comme la plus vieille en Europe, car on considère qu'elle a commencé en 1323. Ça ne s'appelait pas à ce moment-là une académie, mais c'était une organisation où on l'a donné des prix aux poètes. Et à ce moment-là, les poètes, c'était avant tout des poètes qui parlaient le gascon, donc la langue,
la langue d'oc.
Dérivée du latin et la langue d'oc. Et ces poètes chantaient leurs poèmes et on les appelait les troubadours. Ils ont eu une importance. Ils étaient très nombreux à l'époque, n'est-ce pas, déjà au 14e, 15e siècle. Et donc, ils étaient dans toutes les cours de la région, aussi bien en France qu'en Espagne. Et donc, leur influence a été considérable. On a actuellement des centaines de poèmes de l'époque, avec leur musique. Il y a des spécialistes dans les pays anglo-saxons, aussi bien qu'en France, de cette aventure des troubadours. Et alors, c'est à partir de là, donc, que s'est créée cette Académie qui n'est devenue académie que sous Louis XIV, finalement, oui. À la fin du siècle de Louis XIV, en 1794, je crois, n'est-ce pas ? Et qui était alors une organisation avec, au début, il y avait que 35 académiciens, puis ça s'est monté à 40, et je dois dire que cette académie était pas tellement entre les mains des poètes, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, il n'y en avait plus beaucoup, en tout cas il n'y en avait pratiquement plus en langue gasconne, il faisait des poésies en français, et cette académie était entre les mains des magistrats. Oui. Voilà. Ça a duré, il y en a encore pas mal. Enfin, elle perdure et c'est une institution qui a son importance à Toulouse, qui est reconnue par tous, où on défend pour le mieux possible, les lettres et la poésie.
Alors, il y a le chant, hein, la musique. C'est importante, alors Toulouse sans la musique. Hein.
Alors, Toulouse a commencé effectivement déjà sous Louis XIV, avec en particulier l'apparition des opéras. Les opéras étaient inventés en Italie, mais ça a suivi en Allemagne et en France. Et en France, Louis XIV a fait appeler Lully, qui était un Italien d'ailleurs, et qui est devenu le directeur, si j'ose dire, de la musique, non seulement à Paris, mais dans toute la France, et qui a été lui-même un compositeur, qui a créé lui-même des opéras, et qui a lancé un petit peu la mode des opéras en France. Il s'est développé surtout au 18e ensuite, et au 19e.
Vous dites, à Toulouse, on aime chanter et danser, au moins depuis le temps des troubadours, ce que vous venez de dire. Hein. Toulouse possédant de longue date un corps de ménétriers, il ne faut pas s'étonner de voir la musique associée à toutes les cérémonies. Au XVIIe siècle, il n'y a pas de fête sans musique. On danse dans les rues et dans les salons, on chante en chœur dans les églises et on joue l'opéra dans la salle du jeu de pommes de la rue Montardy.
Vous savez que cette salle, est resté à donner au spectacle. Et c'est là qu'on a institué les premiers opéras. Et maintenant, c'est un cinéma.
Oui, voilà. Et oui, c'est l'Utopia.
C'est l'Utopia.
Voilà, voilà. Oui, oui.
Il y a encore un reste, d'ailleurs, hein, intéressant. Lorsqu'on prend son billet et qu'on se retourne, il y a derrière, contre le mur, une pièce de sculpture très belle, d'Arcis, et qui est restée là.
Oui, voilà, oui. Pas... Qui n'est pas très mis en valeur, quand même.
Voilà, pas très bien mis en valeur, dans l'ombre. Dans l'ombre.
Oui, oui. Oui. Donc, des lieux... C'est important, ce siècle a été quand même important, ce siècle
oui,
de 2014,
oui.
Hein, pour Toulouse, c'est pas du tout...
Indiscutable.
Ça l'a pas endormi, le pouvoir royal n'a pas endormi
on
Toulouse,
dit que hein. Les professeurs de l'université se sont un peu endormis, que... Oui. T'es moins brillante qu'à certains moments du XVIe siècle, d'accord, c'est vrai, mais enfin, l'université a persisté, l'école, la faculté de droit est restée la plus brillante après celle de Paris, et celle de médecine aussi.
Voilà, c'est que j'allais y arriver, dans votre domaine, là, les soins médicaux et chirurgicaux à Toulouse, donc il y a l'hôpital Saint-Joseph de la Grave.
Oui, c'est une grande administration avec... 1000 lits et
c'est énorme, quand
qui
même,
était considérable.
Pour l'époque, c'est considérable.
Et où on mettait évidemment tous les chroniques, tous les vieux, tous les infirmes, également éventuellement les mendiants, parce qu'il y avait un problème de ce côté-là. Et aussi bien à Toulouse qu'à Paris, on a admis que il y aurait un grand hôpital où on recueillerait les mendiants et on les ferait travailler, si possible.
Il y a l'hôtel Dieu Saint-Jacques.
L'hôtel Dieu, c'est l'hôtel des activités urgences, d'urgence, des traumatismes, des opérations difficiles, et des étrangers. Les soins sont gratuits et on accepte les étrangers, quels qu'ils soient, pour les soigner. C'est bien. Oui.
C'est une tradition qui a été perpétuée, il me semble, puisque, si j'ai bonne mémoire, pendant la guerre d'Espagne, les Espagnols étaient... Il y avait une salle qui était réservée, qui était là, l'hôtel Dieu.
Oui, oui. Hein?
Alors, comment s'organisait-on à cette époque-là, par exemple, dans le, pour les soins donnés en ville, etc. Est-ce que...
Alors, il y avait des chirurgiens, il y avait deux catégories de soigneurs, c'était les médecins et les chirurgiens, et qui n'étaient pas dans les mêmes institutions. Il y avait une faculté de médecine, donc, qui remontait des siècles en arrière, mais qui n'opérait pas, qui donnait des conseils de soins chirurgicaux, avec au point de départ la saignée, n'est-ce pas? Mais les chirurgiens avaient une école à part, une école qui, à Toulouse, était assez brillante, une école royale de chirurgie. Et ce n'est qu'après la Révolution, après un arrêt d'ailleurs de 10 ans des facultés et des écoles, puisqu'elles ont été supprimées par l'Assemblée constituante, et l'Assemblée législative ensuite. Et les médecins et les chirurgiens se sont réunis alors là, pour ne faire plus qu'un, avec même les pharmaciens, et ont créé une société de médecine, chirurgie et pharmacie, qui a repris l'enseignement, avec beaucoup de courage et avec même de leurs deniers.
Donc une époque qui est particulièrement prospère sur tous les plans. Il y a, et malheureusement il faut maintenant terminer cette émission, il y a dans la fin de votre livre une liste un petit peu des Toulousains, ce que vous appelez les Toulousains remarquables. Hein, oui. On a fait une émission là-dessus de façon plus générale. Mais de cette période, je trouve qu'il y en a, quand même beaucoup.
Hein. Oui, oui.
Il y en a beaucoup. C'est pas du tout une période, c'est une période faste, moi je trouve.
Oui, oui, vous avez raison.
Je trouve que j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. On va retrouver votre écriture, hein, vraiment cette écriture alerte, précise, mais terriblement, comment dirais-je, vivante. Alors, dans tous ces personnages, qu'est-ce qu'on va retenir en gros? On va quand même retenir Goudouli.
Hein, Goudouli, voilà, le grand poète.
Le grand poète qui est sur notre place, là.
Ainsi au milieu des naïades.
Ainsi au milieu des naïades. On va retenir Pierre de Fermat.
Bien sûr.
Et qui
était un des grands mathématiciens de l'époque.
Géomètre.
Et puis alors il y a cet ambassadeur au Siam. C'est intéressant.
Ah oui.
Vous avez vu?
Oui. Il y a Bayle aussi, François Bayle, dont...
Oui, il était parce que en matière générale, dans ce domaine de la médecine un petit peu magique et des sorcières, il faut reconnaître que Louis XIV a fait là quelque chose de très important. Il a supprimé la notion de sorcière et donc...
supprimer la notion de sorcière.
Il ne faut pas oublier qu'au début du XVIIe siècle, sous Louis XIII, on a encore brûlé quelques sorcières. Louis XIV a décidé que c'était fini. Et à la suite de travaux médicaux qui ont montré que ce n'était pas du tout le diable qui intervenait là-dedans. Voilà. Et en particulier les travaux d'un Toulousain, le docteur Bayle.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Carlet, La vie à Toulouse sous Louis XIV, aux éditions Histoire, dont Loubatière, et le volume coûtera 25 €. Merci beaucoup.
Donc, je suis toujours très heureux d'être ici avec vous.
Merci. Nous aurons le plaisir également de parler d'autres périodes de Toulouse, hein, puisqu'il y a des périodes comme le Second Empire, par exemple, qui est aussi intéressant. Voilà. Eh bien, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à Dicias.